Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens est un ouvrage de psychologie sociale rédigé par Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Deux universitaires français connus pour leurs travaux sur la soumission librement consentie et la théorie de l'engagement. Destiné au grand public, il expose des procédés courants qui orientent les décisions sans recourir nécessairement à la contrainte explicite. Son objet central est moins la persuasion par les arguments que la manière dont un acte initial, souvent modeste, est présenté comme libre, peut conduire une personne à accepter ensuite une demande plus coûteuse. Les auteurs décrivent et discutent notamment le pied dans la porte au nez, l'amorçage et diverses formes de leurs commerciaux. Le livre alterne explications issues de la recherche expérimentale, exemples de situations ordinaires et tonalités satiriques. Il assume une ambiguïté essentielle, comprendre ses mécanismes permet à la fois de repérer les pressions discrètes qui structurent les échanges quotidiens et de mieux mesurer les effets de ses propres demandes envers autrui. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la théorie de l'engagement replace les actes avant les opinions. Le principe organisateur du livre est la théorie de l'engagement. Les auteurs montrent qu'une personne ne se définit pas seulement par ses idées, ses valeurs ou ses intentions, elle tend aussi à tirer des conséquences de ce qu'elle a déjà fait. Lorsqu'un acte a été accompli dans un contexte qui semble relever du libre choix, cet acte peut créer une obligation psychologique de cohérence. La personne est alors plus susceptible de poursuivre dans la même direction, y compris lorsque les conditions deviennent moins favorables que prévu. Cette approche distingue la manipulation étudiée ici de la violence, de la menace ou de la simple autorité hiérarchique. Il ne suffit pas de convaincre quelqu'un par un bon raisonnement, il peut être plus efficace de lui faire accomplir une première action concrète. Le livre insiste sur les circonstances qui renforcent cet engagement, un choix perçu comme personnel, un acte visible, un effort fourni ou une décision difficile à annuler. Cette grille éclaire des scènes de vente, de gestion, de relations familiales ou de sollicitations associatives. Elle explique également pourquoi la conscience du procédé ne garantit pas toujours une résistance immédiate, le sentiment de rester cohérent avec sa décision antérieure peut continuer à peser sur le jugement. Deuxièmement, le pied dans la porte transforme une petite acceptation en consentement élargi. Le pied dans la porte constitue une illustration particulièrement nette de la logique de l'engagement. La technique consiste à obtenir une première réponse favorable pour une demande peu coûteuse, puis à formuler une requête plus importante. Une demande initiale anodine ne produit pas mécaniquement une acceptation ultérieure, mais elle augmente les chances de succès lorsqu'elle permet à la personne de se voir comme serviable, coopérative ou concernée par le sujet. Le mécanisme ne repose donc pas seulement sur une habitude de dire oui. L'acte préalable fournit un indice sur lequel l'individu peut reconstruire son image de lui-même et orienter son comportement suivant. Les auteurs examinent ce type de séquence à partir de résultats de psychologie sociale et de situations familières. Une sollicitation mineure peut préparer une demande de temps, d'argent ou de participation plus conséquente. La portée pratique est double. Pour celui qui formule une demande, le livre révèle que la progression des requêtes compte autant que leur contenu. Pour celui qui les reçoit, il invite à évaluer séparément chaque étape plutôt que de traiter la requête suivante comme la prolongation normale de la première. Cette distinction aide à identifier le moment où une aide ponctuelle devient un engagement non désiré. Troisièmement, porte au nez et amorçage exploitent le contraste et la persistance des décisions. Le livre ne réduit pas la manipulation à une montée graduelle des demandes. La porte au nez adopte un mouvement inverse, une requête volontairement excessive est d'abord formulée, puis retirée au profit d'une proposition plus modeste. Cette seconde demande peut paraître raisonnable par contraste avec la première et être interprétée comme une concession. La personne sollicitée peut alors ressentir une pression à répondre elle aussi par un compromis. L'amorçage suit une autre logique. Une décision favorable est obtenue avant que des contraintes, des coûts ou des inconvénients importants soient pleinement révélés. Une fois la décision prise, une partie des individus maintient son choix au lieu de repartir de zéro dans son évaluation. Les auteurs mettent ainsi en évidence le décalage entre le moment apparent de la liberté et les informations réellement disponibles au moment du choix. Ces procédés sont importants parce qu'ils déplacent la question éthique. Un consentement formel ne suffit pas à établir que la décision a été prise dans des conditions claires. Dans la pratique, il devient utile de demander quelles informations étaient connues avant le oui. Quelle demande sert de point de comparaison? Et si la nouvelle proposition serait acceptable sans la séquence qui la précède? Le livre invite donc à analyser les structures de décision plutôt que les seules intentions déclarées. Quatrièmement, les usages commerciaux et managériaux rendent visibles des pressions ordinaires. Joue les Beauvois situe leur technique dans des cadres ordinaires où la contrainte directe serait inefficace, coûteuse ou socialement mal acceptée. La vente, la publicité. Le management et certaines interactions de service offrent des terrains privilégiés, car ils multiplient les occasions de demander un geste préalable, de présenter un choix limité ou de révéler progressivement les conditions réelles. Les appâts commerciaux illustrent cette dynamique, une offre attractive attire la décision initiale. Puis, les éléments moins avantageux apparaissent lorsque le client est déjà engagé dans la démarche. Le livre ne prétend pas que tout vendeur, responsable ou proche, applique consciemment une stratégie savante. Il montre plutôt que des dispositifs sociaux peuvent produire des effets prévisibles, même sans intention malveillante. Cette nuance protège contre une lecture conspiratrice de la vie quotidienne. Elle ne retire rien à la responsabilité des organisations qui conçoivent des parcours visant à rendre le refus plus difficile. L'analyse vaut aussi pour les relations professionnelles faire accomplir une tâche limitée. Demander un accord visible ou présenter une concession calculée peut modifier la probabilité que des demandes ultérieures soient acceptées, en rendant ces mécanismes observables. Le livre fournit un vocabulaire pour distinguer une négociation transparente, où les coûts sont discutés, d'une influence qui tire parti du déroulement même des engagements. En dernier lieu, se défendre suppose de ralentir la décision plutôt que de démasquer chaque intention. La valeur défensive du livre tient moins à une recette infaillible qu'à un changement de regard sur les demandes quotidiennes. Face à une sollicitation, il recommande implicitement de ne pas confondre un premier accord avec une obligation durable. Une personne peut avoir rendu un service, donné une information ou accepté un rendez-vous sans devoir approuver tout ce qui suit. Cette séparation des décisions est essentielle contre le pied dans la porte et contre les formes de persistance liées à l'amorçage. Il importe également de vérifier les conditions complètes avant de consentir coût, durée, alternative, possibilité de retrait et conséquences concrètes. Pour la porte au nez, la comparaison utile ne doit pas être la demande extravagante qui vient de disparaître, mais la question de savoir si la proposition finale serait acceptable en elle-même. Le livre offre ainsi une éducation pratique au refus raisonné. Dire non ne signifie pas nier toute coopération. Cela signifie rétablir un espace de délibération lorsque la séquence d'interaction cherche à le réduire. Cette orientation explique le sous-titre « Les connaissances présentées peuvent être utilisées pour influencer ». Mais elles permettent aussi de reconnaître les procédés qui transforment une apparente liberté en consentement guidé. La responsabilité éthique dépend alors de la finalité poursuivie, de la transparence et du respect réel du choix d'autrui. En conclusion, Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens convient aux lecteurs qui souhaitent comprendre les ressorts concrets de leurs décisions dans la consommation, le travail, la famille ou les échanges de services. Il intéressera particulièrement les professionnels de la vente, de la communication, de la gestion ou de la formation, à condition de le lire comme un outil de réflexion éthique et non comme un manuel de ruse. Il est également utile à toute personne désireuse de mieux identifier les moments où un oui initial risque de devenir une obligation implicite. Son bénéfice principal est de rendre visibles des mécanismes discrets, progression des demandes, effet de contraste, inertie des choix et rôle du contexte dans lequel une décision est obtenue. Le lecteur peut ensuite examiner plus lucidement les informations disponibles, les coûts différés et la liberté réelle de refuser. Par rapport à de nombreux ouvrages de développement personnel consacrés à la persuasion, le livre se distingue par son ancrage dans la psychologie sociale expérimentale et par la place centrale accordée aux actes plutôt qu'aux seules qualités oratoires. Il ne présente pas l'influence comme un talent mystérieux ou une simple affaire de charisme. Il analyse des dispositifs reproductibles, tout en conservant une tension critique sur leurs usages. Son style accessible, ses exemples de la vie courante et son regard parfois ironique ont contribué à sa large diffusion. Malgré certaines répétitions possibles, il demeure une introduction marquante pour penser ensemble influence, engagement et autonomie de jugement. Si vous souhaitez soutenir Jean-Léon Beauvois, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.